Radio Kapi.
À la une de l'actualité, un hélicoptère des Nations Unies a atterri ce jeudi à Goma, au Nord Kivu. Une première depuis la fermeture de l'aéroport il y a un an. La chef par intérim de la mission de l'ONU est venue soutenir le processus de paix et le mécanisme de suivi du cessez-le-feu. Le Haut-Katanga vante ses opportunités d'investissement au forum Mining Indaba en Afrique du Sud. À Cape Town, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe rassure sur la sécurité et annonce des mesures pour mettre fin au vol des cathodes de cuivre. Eau potable à Kinshasa, du nouveau pour les abonnés. La régie des eaux met en service un réservoir de 24 millions de litres avec le troisième module de l'usine de l'Ozone. Quelles communes sont concernées? Le déficit en eau est-il réduit? Réponse dans cette édition avec notre invité Raymond Matundu, directeur provincial de la régie des eaux. À toutes et à tous, bonsoir. Le Nord Kivu a connu ce jeudi le premier atterrissage d'un hélicoptère de la MONUSCO depuis la fermeture il y a une année de l'aéroport de Goma en raison de la guerre. La chef par intérim de la mission des Nations Unies en RDC est arrivée à Goma à bord de cet appareil dans le cadre d'une mission d'appui au processus de paix en cours entre le gouvernement congolais et la rébellion AFC M23. À sa descente d'hélicoptère, Madame Viviane Van de Peer a indiqué aux médias que sa visite vise également à échanger avec les différentes parties prenantes afin de faire progresser les dispositions pratiques liées aux mécanismes de suivi et de vérification du cessez-le-feu. Suivant ces propos recueillis par Bernard Denyanki.
Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau. Et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025, du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE plus. La MONUSCO déployera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets.
Précisons que cet appui de la MONUSCO au mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu s'inscrit dans le cadre de son mandat défini par la résolution 2808 du Conseil de sécurité. Il s'exerce dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo selon la mission onusienne. Entre-temps, à Ituri, les forces armées de la RDC ont lancé depuis mardi une opération de ratissage dans la zone de Boulé et dans 5 villages voisins dans les territoires des Djougou. Objectif, écarter toute menace de la milice Convention pour la Révolution Populaire CRP contre la population civile. Selon des sources sécuritaires, le bilan provisoire fait état de 2 morts et 5 blessés. L'armée congolaise est appuyée par les casques bleus de la MONUSCO. Mercredi, ces derniers ont tiré plusieurs coups de feu pour repousser un groupe d'assaillants vers le village de Kasali. Isaac Raymond.
Depuis la reprise dimanche du centre commercial de Boulé par les FARDC, les miliciens de la CRP multiplient les tentatives pour réinvestir cette agglomération. Mardi avant midi, l'armée a tiré des obus pour déloger les miliciens retranchés à la périphérie de Boulé. Dans l'après-midi, un autre groupe a été repoussé vers Tchoupa et Sapali, des localités voisines. Les opérations de traque se sont poursuivies presque toute la nuit de mardi à mercredi à direction de Djaimbou Eka. Toujours selon des sources sécuritaires, des civils dont une fillette ont été tués et 3 hommes blessés lors des affrontements. Les blessés ont été acheminés à l'hôpital de Fataki. La MONUSCO renforce également ses patrouilles autour des boulets pour assurer la protection des civils. Mercredi, les casques bleus ont tiré plus de 40 obus pour repousser des miliciens de la CRP vers Kasali après que ces derniers ont ouvert les feux sur les soldats onésiens. Malgré ces opérations, des mouvements suspects de l'ennemi sont encore signalés dans la zone. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Nous l'avons dit au sommaire, à marge du forum Mining Indaba qui se tient à Cape Town en Afrique du Sud, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga a animé ce mercredi un point de presse. Martin Kazembe s'est exprimé notamment sur les opportunités d'investir dans les Haut-Katanga. Il rassure que la paix règne actuellement dans la province et garantit aussi aux investisseurs la sécurité. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga annonce par exemple que des mécanismes sont mis sur pied pour mettre fin au vol des cathodes de cuivre qui étaient récurrents dans la province afin de sécuriser les transporteurs miniers. Les propos de Martin Kazembe sont sélectionnés par Pone Munanga.
La province du Haut-Katanga parle le même langage avec le pouvoir central. Et surtout, nous nous inscrivons dans la vision du chef de l'État qui a accepté que les Américains viennent exploiter nos produits miniers dans la légalité et qui est la paix. Dans le secteur minier, il y a tout chez nous. Nous lançons un appel à tous les investisseurs de venir chez nous, de venir investir et nous les garantissons la sécurité. Donc nous faisons tout pour sécuriser l'opérateur minier afin que les affaires aillent de l'avant. Vous avez suivi, il y avait des cas récurrents de vol de cathodes et on a mis sur pied des mécanismes. Il y a eu une acquisition d'un charroi important et du personnel que nous allons mettre sur le pied dès que nous rentrons pour sécuriser les transporteurs miniers et surtout l'opérateur économique. Nous sommes en train de privilégier aujourd'hui à l'entrepreneuriat des jeunes dans tous les secteurs, l'agriculture également. Ça fait partie de la politique au niveau de la province. Chaque année culturelle, la province du Haut-Katanga encadre des agriculteurs. On accorde des intrants, une façon de les subventionner et dès que nous avons ces produits agricoles, nous essayons d'injecter sur le marché afin d'équilibrer le prix pour qu'il n'y ait pas de flambée de prix. À ce qui concerne la dernière rare qui est la farine, parce que chez nous au Katanga, c'est la farine.
Et puis, la question sensible de l'utilisation illégale des fréquences congolaises par la société MTN Rwanda a été au centre de l'audience que la première ministre a accordée mardi au ministre des Postes et Télécommunications. Celui-ci était accompagné du président de l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPTC, ainsi que des responsables des principales sociétés de téléphonie mobile opérant en RDC, notamment RTL, Orange et Vodacom. Le ministre des Postes et Télécommunications, José Mpanda, souligne le caractère stratégique et souverain de ces dossiers. Il précise que cette rencontre s'est tenue en présence du régulateur et des opérateurs concernés afin d'éclairer le gouvernement sur les aspects techniques du problème. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Nous avons été reçus par son excellence, madame la première ministre, au sujet de la question épineuse de l'occupation de notre territoire par une société rwandaise MTN qui commence à exercer dans notre pays en utilisant nos fréquences sans avoir l'autorisation. Il fallait que nous venions avec les créateurs, le président de la RPTC, mais également les opérateurs concernés, notamment RTL, Orange et Vodacom. Nous avons présenté la question et nous avons dit, madame la première ministre, les orientations. La question reste technique. Une communication technique se fera autour de la question et les instances politiques viendront après. Pour le moment, la première ministre a donné des instructions précises pour que les techniciens, c'est-à-dire l'ARPTC qui va pouvoir communiquer sur la question et arriver à saisir les autres instances internationales autour de la question.
Et au sud Kivu, les mots qui bloquent le développement et la paix du territoire de Shabunda ont été au centre des échanges engagés hier entre la population et une délégation du gouvernement provincial. Le ministre provincial de la Justice et chef de la délégation a obtenu, séance tenante, la levée de la mesure contre l'incivisme fiscal décrétée par les forces vives de Shabunda durant 4 jours en guise de contestation des graves abus commis par les Wazalendo. Les conditions d'approvisionnement de la ville de Shabunda en produits de première nécessité ont été également débattu entre les acteurs sociaux et la délégation du gouvernement provincial. Jean Kassami nous en fait le point.
À Shabunda Centre, le paiement des taxes et des redevances minières était suspendu par la société civile territoriale depuis l'assassinat des 4 civils par les Wazalendo le 23 janvier 2026. La crise venait de durer 4 jours à Shabunda lorsque le gouvernement provincial y a dépêché hier une délégation. Faustin Mayani, ministre provincial de la Justice et chef de mission.
Nous avons été alertés de beaucoup de cas de violation des droits de l'homme dans les territoires. Nous avons aussi rencontré des difficultés d'approvisionnement de Shabunda à partir de Beni où 1 kilo de fret coûte $3. alors que Chabunda est proche de la ville de Kindu. Les produits de première nécessité peuvent venir de Kindu si ces 12 kilomètres sont arrangés.
Les difficultés liées au paiement des salaires des enseignants ont été aussi décortiquées.
Nous avons examiné les difficultés qu'éprouvent les enseignants qui sont payés par Mobile Money. Ils n'ont pas la possibilité d'accéder à l'argent parce que les services financiers ne sont pas disponibles. Ceux qui sont dans les centres villes peuvent facilement accéder à leur salaire, mais ceux qui sont à l'intérieur du territoire éprouvent d'énormes difficultés.
Jean Kassami, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur la radio de la paix. Les élèves sourds de l'Institut Espérance, une école conventionnée catholique située à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, ont bénéficié ce mercredi d'une séance de sensibilisation organisée par les collectifs citoyens actifs CCA. Cette activité s'inscrivait dans le cadre de la Journée internationale des femmes et des filles des sciences, placée cette année sous le thème de la vision à l'impact, combler les écarts entre les genres et redéfinir les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Nana Plurichimambu, reportage.
Dans son intervention, Walitri Dingengi, coordonnatrice provinciale des CCA, a encouragé les enfants malentendants à ne pas céder aux stéréotypes toxiques et à croire en leur potentiel. Elle a rappelé que les jeunes filles, quel que soit leur handicap ou leur milieu social, doivent avoir confiance en leurs capacités et refuser de se sous-estimer.
L'école est un milieu inclusif, c'est-à-dire que vous soyez sourd, muet ou pas, vous avez droit à l'éducation. On constate qu'il y a beaucoup de garçons qui sont dans le domaine de la science, paix de femmes. Et nous sommes venus ici à l'expérience pour sensibiliser ces enfants à faire appel à l'action pour qu'elles également rejoignent les domaines de la science.
De son côté, le gestionnaire de l'école Espérance des malentendants a salué cette initiative, exprimant sa gratitude envers les organisateurs et plaidant pour la multiplication de telles activités en faveur des enfants sourds, souvent confrontés à la marginalisation.
Vraiment un sentiment de joie. Comme vous savez, ces enfants se sentent délaissés. Hein. Quand ils trouvent qu'il y a des gens qui viennent les rendre visite, ils sont vraiment émerveillés, ils sont très contents.
Les collectifs citoyens actifs prévoient de poursuivre ce type d'action, notamment pour promouvoir la masculinité positive qui s'installe progressivement dans la province du Congo central, où certaines coutumes et traditions rétrogrades continuent de freiner l'épanouissement de la jeune fille, a-t-il indiqué. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Direction la province du Maniema, où les membres du comité exécutif provincial des églises du Christ au Congo SCC ont évalué au cours d'une session organisée de lundi à mercredi la situation politique, économique et sociale du pays. S'ils reconnaissent certaines avancées significatives, ils estiment toutefois que plusieurs aspects doivent encore être améliorés. Le président de l'SCC Maniema appelle les dirigeants à s'impliquer davantage afin d'améliorer les conditions de vie de la population. Monseigneur Gabriel Undayemba invite également les citoyens à s'investir dans les travaux et à ne pas tout attendre des autorités. Il s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
En ce qui concerne la situation socio-politique du pays, nous avons trouvé que les choses commencent à s'améliorer petit à petit, malgré certaines difficultés que ici au Maniema, nous avons trouvé que ça marche un peu bien. On a aussi examiné les problèmes de la vie de nos populations. Là aussi, c'est terrible parce que la manière dont les gens vivent à l'intérieur, c'est malheureux. Il faut que l'État arrive à améliorer la vie sociale de la population, comme je l'ai toujours dit. D'abord la prière et ensuite le travail. Parce que un peuple qui croit que tout va tomber comme la manne du ciel se trompe. Nous devons travailler d'arrache-pied pour que les choses aillent de l'avant. Nous avons tout. Nous avons des grandes forêts et nous avons aussi des eaux. Nous avons des savanes. Là, nous pouvons faire des différentes cultures. Il faut que chacun se met au travail plutôt que de rester des simples demandeurs.
À Tchikapa, dans la province du Kasaï, les pluies torrentielles enregistrées ces derniers jours ont accéléré la progression du ravin Saïsaï situé dans le quartier Kanangaï. Cette érosion a déjà provoqué d'importants dégâts matériels et plongé plusieurs familles dans la précarité. La société civile locale appelle les autorités, tant provinciales que nationales, à intervenir rapidement pour éviter le pire. Explication André Katendengala Moloumé.
Selon des sources locales, au moins une dizaine de maisons ont été englouties, laissant leurs occupants sans abri. Les sinistrés vivent désormais dans des conditions humanitaires préoccupantes. Outre les habitations détruites, l'érosion a également coupé plusieurs avenues, perturbant la circulation dans cette partie de la ville. Face à l'ampleur des dégâts, Alain Kacham, coordonnateur provincial de la société civile du Kasaï, lance un appel pressant aux autorités. Il plaide pour une intervention urgente afin de limiter les pertes et protéger les populations menacées.
Avec les pluies d'avant-hier, plusieurs habitations ont été englouties, laissant des milliers de familles sans logement. Nous appelons les autorités à diligenter des travaux de lutte anti-érosive sur les sites de Saïsaï pour éviter la progression rapide. Ça serait une façon de protéger la population locale.
À noter que la concession Ménonite, qui abrite les sièges de l'Assemblée provinciale ainsi que l'avenue Lumumba, figure parmi les sites désormais exposés au danger si aucune mesure urgente n'est prise. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
À Washington, des parlementaires américains poussent un nouveau projet de loi visant à lutter contre les persécutions religieuses au Nigeria, en insistant particulièrement sur la nécessité de responsabiliser le gouvernement fédéral sur le sujet. Au mois d'octobre, le président Donald Trump avait dénoncé un génocide des chrétiens dans ces pays d'Afrique de l'Ouest.
L'invité.
La régie des eaux vient de mettre en service le grand réservoir d'une capacité de 24 millions de litres pour desservir les abonnés qui ont fait plusieurs années sans recevoir de l'eau dans les robinets. Quelles sont les communes qui seront desservies avec la mise en service du troisième module de l'usine de l'ozone? À combien s'élève à présent le déficit de la ville de Kinshasa pour la régie des eaux? Quel est le prochain grand chantier de la régie des eaux pour améliorer la desserte en eau dans la ville de Kinshasa? Raymond Matundu, directeur provincial de la régie des eaux, répond à toutes ces questions dans cet entretien avec Blaise Shindane Kambala.
Bonjour, monsieur Raymond Matundu.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Décrivez-nous un peu ce réservoir de Bumbu. Il date de quand? Quelle est sa capacité? C'est qu'elle vient améliorer dans le vécu des Quinois? Et quelles sont les communes que sa mise en service va impacter?
Ce réservoir-là se trouve sur l'avenue manifeste. Alors, c'est un réservoir de 24 000 mètres cubes. Donc, si nous pouvons exprimer ça en termes de litres, nous disons 24 millions de litres. Que ces réservoirs-là ont la capacité de stockage. Alors, ces réservoirs-là va jouer le rôle d'équilibre. Les quartiers qui sont restés longtemps comme Kitokimosi, Sana, en allant vers Camping là-bas, tous ces quartiers-là vont devoir bénéficier du service de ces réservoirs-là. Il y a aussi une partie de l'eau de ces réservoirs-là va desservir par gravité les abonnés qui sont au niveau de la commune de Selemba ou vers les avenues Tatamena, le marché de Selemba ou ainsi de suite. Donc, il y aura vraiment un impact positif en rapport avec ces réservoirs-là. Même les abonnés de Bumbu dans la partie haute là qui ne recevaient pas de l'eau vont maintenant être servis par ces réservoirs-là. Donc des abonnés de Bumbu, Selembao, ainsi de suite.
Autre question, avec la mise en service du troisième module de l'usine de l'ozone, à combien s'élèvent à présent les déficits de la ville de Kinshasa pour la régie des eaux?
Là, je crois que on doit actualiser. Parce que en 2018, on avait besoin de 1 million de mètres cubes dans la ville province de Kinshasa. Mais comme vous savez que c'est pas statique, hein, c'est dynamique, il y a le nombre des abonnés qui augmente, il y a des maisons en construction en étage, il y a de nouveaux sites et tout là. Je crois que ça va augmenter encore. Ça ne sera plus 1 million. Je crois, nous avons évalué ça à 1 200 000 mètres cubes jour. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'usine de l'ozone, nous avons maintenant 870 000 mètres cubes jour. Alors, comprenez, quand on avait 1 million de mètres cubes, donc on pouvait faire la différence pour voir les déficits. Là.
Vos abonnés des sites touchés par des érosions et qui sont privés d'eau depuis, à Mongafula notamment, attendent beaucoup de vous. Car de ceux qui sont vers les nouvelles érosions de Kimwenza, quel message pour eux?
D'abord, pour les abonnés de Kimwenza, nous allons dire ceci. C'est depuis le 4 février ici que nous avons remis l'usine de Lukaï en service, qui était en arrêt depuis le 27 novembre 2025 à cause de l'érosion au niveau des chemins sur la route Kimwenza. Mais c'est depuis le 4 février que cette usine est de nouveau en service. Alors, il y a nos abonnés qui étaient desservis par cette usine, notamment les abonnés de Mongafula, Commune, Cité Verte, Matadi Mayo, Badiadingi et puis Cité Verte. Je crois qu'ils ont vu l'eau couler au robinet. Mais ce que nous continuons à dire ici, la quantité que nous avons au niveau de la production, au niveau de l'usine, ne suffit pas pour donner de l'eau à tous ces abonnés-là au même moment. Parce qu'à l'heure actuelle, il nous faut au moins 100 000 mètres cubes par jour. Or, ce que nous produisons, c'est à peu près 36 000 mètres cubes jour. Donc, il y a encore un déficit dans cette partie de la ville, mais nous essayons un peu de rationner pour donner de l'eau tant soit peu à tout le monde. Donc, à notre niveau, nous continuons à faire un peu les rationnements pour que chacun puisse essayer un peu de stocker ce qu'il peut stocker.
Après la mise en service du réservoir de Boumou, quel est le prochain grand chantier de la régie des eaux pour améliorer la desserte en eau dans la ville de Kinshasa?
L'usine de l'ozone est terminée, la pose de la canalisation est faite. Il y a encore un grand chantier au niveau de l'usine d'Engil, parce que l'usine d'Engil qui a aussi une capacité de 330 000 mètres cubes, il y a des travaux qui se font au niveau des décanteurs de module 2. Avec cette réhabilitation, en tout cas, ça va encore impacter nos abonnés qui sont maintenant dans la partie centre-est et puis centre-sud-est, comme par exemple les abonnés qui sont à Kisesso, les abonnés qui sont vers Cité Salongo, ainsi de suite. Dans cette partie de la ville, on est tenté de construire des réservoirs et tout ça, ça va encore améliorer la desserte d'une façon générale dans la ville province de Kinshasa.
Monsieur Raymond Matundu, directeur provincial de la régie des eaux, je vous dis merci beaucoup.
Merci, moi qui vous remercie.
Notre invité était avec Blaise Shindani Kambala. Par ici s'achève ce journal mis en onde par Alain Goy et Pierre Diassinois. La coordination assurée par Élisée Chikota sous la supervision de Lievin Mbwinga. À la présentation, grâce à Mzati Masanzi. Merci pour votre confiance.